Bonjour et bon dimanche à tous.
Bonjour.
On va commencer par faire une lecture dans Matthieu chapitre 26, verset 6. Je commence. 26, verset 6. Jésus est en train de tanner dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, et le lui répandit sur la tête pendant qu'il était à table. Ses disciples, voyant cela, en furent indignés et dirent : à quoi bon cette perte ? Car on pouvait vendre bien cher ce parfum et en donner l'argent aux pauvres. Mais Jésus, connaissant cela, leur dit : pourquoi faites-vous de la peine à cette femme, car elle a fait une bonne action à mon égard. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. Et si elle a répandu ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité que dans tous les endroits du monde où ce message de la grâce sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariote, s'en alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit : que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. Et ils comptèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus.
Voilà, alors quand dans les films hollywoodiens, on vous dit que, c'était pas pour l'argent que Judas l'a vendu, mais c'est qu'il voulait provoquer Jésus en le mettant dans une situation difficile afin qu'il réagisse, gna 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 gna. C'est faux. La Bible dit que c'était pour l'argent qu'il l'a vendu. Voilà, ça c'est dit. Il y a beaucoup de choses qui sont... Vous savez, je suis au courant, je suis au courant de ce que beaucoup de loups ravisseurs se sont introduits dans les églises pour raconter des histoires invraisemblables. Et beaucoup prêchent plus au sujet de l'argent qui sauve que de Jésus qui sauve. Ils vous prêchent une espèce de ce qu'on appelle couramment maintenant l'évangile de la prospérité. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens malhonnêtes dans les églises qui se font un pognon fou sur le dos de leurs fidèles qu'il n'y a rien dans la Bible qui parle de l'argent et de la façon de l'utiliser. Ce matin, je prends le risque de passer pour un prédicateur de l'évangile de la prospérité au regard des superficiels et de ceux qui ont décidé que je suis malhonnête. Tant pis pour eux. Je ne suis pas un prédicateur de l'évangile de la prospérité, mais je dois vous dire la vérité concernant la prospérité selon les Écritures. La vérité, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous vivions pécheurs, coupables, malades, malheureux, pauvres, voués à l'échec, dans la misère, dans la précarité. Ça n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas ça pour ses enfants. Jésus a dit qu'il y aurait toujours des pauvres sur cette terre. Oui, on sait qu'il y en a encore, mais il nous a donné à nous l'ordre de leur venir en aide. Quand il vivait sur cette terre, Jésus venait en aide aux pauvres. D'ailleurs, quand Judas est sorti pour aller livrer Jésus, l'évangile nous dit que les disciples ont pensé qu'il allait donner de l'argent aux pauvres sur ordre de Jésus. C'était courant, Jésus, d'aider les pauvres. Et Jésus veut que nous suivions son exemple. Ce qu'il faisait, il veut que nous le fassions aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus n'est plus en chair et en os sur cette terre, mais tout ce que nous faisons aux autres, Jésus dit, c'est à moi que vous le faites. On trouve ça dans Matthieu 25, 40. Si vous donnez quelque chose à une personne nécessiteuse, c'est à Jésus que vous le faites. Cette femme, quand j'étais plus jeune, on avait un billet en Suisse, je crois que c'était le billet de 100 francs en Suisse. On voyait celui qu'on appelle Saint-Martin, qui était descendu de son cheval et qui partageait son vêtement en deux pour le donner à un pauvre, la moitié de son vêtement. Et dans la nuit, Jésus est apparu à celui qu'on appelle maintenant Saint Martin, et Jésus était revêtu avec la moitié du manteau, et il a dit: ce que tu as fait pour ce pauvre, c'est à moi que tu l'as fait. Et c'est une histoire qui s'est répandue dans le monde entier. On connaît cette histoire, et c'était même sur un billet de, je crois que c'était 100 francs suisses à l'époque, je ne sais pas maintenant comment c'est. Cette femme a donné un parfum de grande valeur à Jésus en personne. De nos jours, on ne peut plus donner quoi que ce soit à Jésus en personne, c'est-à-dire en chair et en os, puisqu'il n'est plus en chair et en os sur cette terre. Par contre, nous avons des pauvres. Il dit: des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et maintenant, il n'est plus là, on ne peut plus lui offrir du parfum, lui offrir une Rolls, lui offrir... pas. C'est pas possible. Mais ce qu'on fait pour les pauvres, c'est à lui qu'on le fait. Nous avons des pauvres à qui nous pouvons donner, et leur donner quelque chose, c'est le donner à Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, nous enseigne qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas bénéficier de cette joie? Non, tout le monde peut bénéficier de cette joie. C'est vrai. Si vous êtes pauvre, ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas connaître la joie de donner. On a toujours un petit quelque chose à donner. Toujours. Ne serait-ce qu'une visite, un sourire, quelque chose, partager quelque chose. On peut toujours donner quelque chose. Le plan du salut de Dieu pour tous, pour les riches, pour les moyennement riches, pour les pauvres, ce plan est le même pour tous. Un jour, j'ai demandé à Frère Osborne: mais est-ce que vous prêchez au sujet de l'argent en Afrique chez les pauvres? Il dit: mais surtout chez les pauvres là-bas en Afrique, parce qu'ils en ont plus besoin encore que nous qui sommes quand même des nantis par rapport à eux. Ce plan de Dieu inclut tout bienfait, toute bénédiction qui nous sont nécessaires ou que simplement nous désirons, à condition d'accepter le règne de Jésus sur notre vie en tant que maître. Et que nous nous efforcions de le glorifier en tout ce que nous pensons, en tout ce que nous disons, en tout ce que nous faisons. Cela, c'est ce qui nous met dans la bonne perspective vis-à-vis des bienfaits que Dieu tient en réserve pour nous et nous destine ici-bas sur cette terre. Le fait de vouloir s'enrichir en donnant sa dîme, c'est une grossière erreur. On donne notre dîme, le dixième de notre revenu, pour aider les pauvres. C'est ça qui plaît à Dieu. Et c'est ça qui ouvre les écluses des cieux pour celui qui donne sa dîme avec cette intention-là. Celui qui donne sa dîme dans l'intention de s'enrichir, il a tout faux. On ne donne pas la dîme pour vivre dans l'abondance. C'est ce que ces prédicateurs de la prospérité disent. On donne la dîme pour qu'il y ait des provisions dans la maison de Dieu. On va lire Malachie 3:1. Certains vont me dire: mais c'est dans l'Ancien Testament. C'est vrai, c'est dans l'Ancien Testament. Mais Jésus dit: vous donnez la dîme, vous faites bien, mais n'oubliez pas, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'il faut faire. D'accord ? Donc la dîme n'est pas un truc pour l'Ancien Testament. Maintenant, nous donnons à Jésus comme nous donnons aux pauvres. Voilà ce qui est dit dans Malachie chapitre 3. Je lis à partir du verset 1 parce que beaucoup de prédicateurs de la prospérité méprisent ces quelques versets-là. Voici, je vais envoyer mon messager et il préparera la voie de la présence. Donc c'est le sujet de Jean-Baptiste qui va préparer le chemin du Seigneur, et soudain il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, lui qui est le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'admirable des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent.
Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent, et ils seront à l'admirable et ils présenteront des offrandes dans la justice. Beaucoup présentent des offrandes qui ne sont pas dans la justice, comme je vous le disais. Par exemple, donner afin de recevoir. Ça, c'est pas bon. On donne pour qu'il y ait des provisions dans la maison de Dieu. Alors, l'offrande de Judas, c'est-à-dire attribuée de Jérusalem, sera agréable à l'admirable comme au jour ancien, comme aux années d'autrefois. C'est-à-dire que les offrandes qui étaient faites avant, elles étaient faites, mais n'étaient pas agréables à Dieu. Je ne m'approcherai de vous, et je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, contre les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire des mercenaires, des ouvriers, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et qui ne me craignent pas, a dit l'admirable des armées. Car je suis l'admirable, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, et vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'admirable des armées. Et vous dites, en quoi reviendrons-nous? L'homme trompe-t-il l'esprit des vivants? Car vous me trompez. Et vous dites, mais en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Pourtant, il donnait les dîmes et les offrandes, mais ce n'était pas agréable à Dieu parce que c'était fait dans une mauvaise intention. Vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez, vous, la nation entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et éprouvez-moi en cela, dit l'admirable des armées, si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Je détournerai de vous le rongeur, il ne vous détruira pas le fruit de la terre, de vos vignes, et elles ne seront point stériles, et ne seront point stériles dans la campagne, dit l'admirable des armées. Et toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'admirable des armées. Alors, 1, Dieu vient pour purifier son peuple. Il purifie l'argent et il purifie son peuple. C'est ce qu'on vient de lire, versets 2 et 3. Il sera comme un feu purificateur. Il purifiera les fils de Lévi, c'est-à-dire ceux qui le servent, ceux qui sont au service de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on le serve si on n'est pas purifié. Et même la dîme, on ne peut pas acheter Dieu avec la dîme. Ce n'est pas parce que vous donnez votre dîme que Dieu est obligé de vous bénir. Non. Il s'en fiche de votre argent. Ce que Dieu veut, ce sont des cœurs purs. C'est ça qui est important. Sans cette purification, les offrandes que les croyants apportent à l'Église ne sont pas agréables à Dieu. Verset 4. C'est ce qu'on vient de lire. Dieu, quand il s'approche de son peuple, c'est pour un jugement. Il témoigne contre les enchanteurs, c'est-à-dire les faiseurs de fausses prophéties. Vous savez, ceux qui vont manipuler avec des prophéties. Et ainsi dit le Seigneur, tu verras, un miracle est en route pour toi, l'air, et la foule viendra au portail, et des âneries comme ça. Contre les adultères, c'est-à-dire physiques et spirituels, c'est-à-dire ceux qui enseignent des choses spirituelles qui sont fausses, contre des faux témoins, contre ceux qui ne payent pas correctement les ouvriers. Si vous avez des ouvriers et que vous les traitez en esclaves, c'est grave. Contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin et qui ne prennent pas soin d'eux, verset 5. Vous vous rappelez, je vous ai cité le texte dans Ézéchiel où il est dit « Quel était le péché de Sodome ?» C'était d'être dans l'abondance et de ne pas prendre soin de la veuve et de l'orphelin et de ne pas tendre la main aux indigents, de ne pas aider les pauvres. C'est ça être un sodomite. Contre ceux qui font du tort aux étrangers, verset 5, mais c'est quoi faire du tort aux étrangers? C'est être dans son propre pays, puis faire du tort à ceux qui viennent et qui sont étrangers. Mais c'est aussi
Venir de l'étranger, être dans un pays où on est étranger, puis faire du tort à ceux qui habitent le pays. Il est contre ceux qui ne croient pas dans l'Éternel, verset 5, car il est Dieu et il ne change pas. Quand il est écrit dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas, il est comme ça et il ne changera jamais. Verset 6, il n'a pas encore détruit les infidèles de son peuple. C'est pas encore fait, mais ça vient. C'est proche, ça vient, verset 6. Car depuis des années, le peuple de Dieu s'est écarté des ordonnances du Seigneur, verset 7. Il veut que les chrétiens reviennent à lui. Et seulement à ce moment-là, il reviendra à son peuple. Ça, c'est dans le verset 7 qu'on a lu. Et le peuple dit, mais en quoi est-ce qu'on doit revenir? Parce que le peuple croit qu'il est dans la vérité. Le peuple croit qu'il est bien. Verset 7. Et Dieu dit, quoi, vous pensez que vous allez pouvoir me tromper? Dieu dit, l'homme trompera-t-il Dieu? Non mais vous rigolez, parce que vous me trompez. Verset 8.
Il dit, mais quoi est-ce qu'on t'a trompé? Ils sont bêtes, ils sont complètement brutis. Ils ont les écritures, ils les lisent ou ne les lisent pas, et puis après ils font n'importe quoi, puis ils disent, je vois vraiment pas, où c'est qu'on a trompé Dieu? Je comprends pas, je vois pas.
Même si vous avez donné votre dîme et vos offrandes, si vous l'avez fait dans le but de vous enrichir, vous avez trompé Dieu. Si vous ne donnez pas votre dîme, vous trompez Dieu. Il dit carrément, vous êtes maudit si vous ne le faites pas. Vous êtes maudit si vous le faites mal. Ben maintenant, tu sais. On va lire Malachie 3, 9. Vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez les dîmes à la maison du trésor, qu'il y ait ainsi des provisions dans ma maison. Éprouvez-moi en cela, dit l'admirable des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne réponds pas à la bénédiction sur vous. Vous voyez pourquoi l'Église de France est si pauvre? Parce qu'elle est maudite. Parce qu'elle n'apporte pas à la maison de Dieu les dîmes et les offrandes dans le but qu'il y ait des provisions dans la maison de Dieu. À quoi servent ces provisions dans la maison de Dieu? À pourvoir aux besoins des pauvres. La maison de Dieu est l'endroit où sont organisées des œuvres de bienfaisance. Si vous donnez 10 balles à un pauvre par-ci, par-là, c'est bien. Mais si on peut centraliser ça dans la maison de Dieu et faire des grands coups, comme on a fait dernièrement en envoyant une tonne de riz là-bas pour ces 60 personnes âgées, c'est quand même plus intéressant de pouvoir faire ça que de donner un kilo de riz par-ci, un kilo de riz par-là, en étant une église, un corps qui fait les choses ensemble, d'un seul cœur, d'une seule âme. Qu'il y ait des provisions dans la maison de Dieu pour qu'il y ait une gestion pour pouvoir aider les pauvres. Ça ne veut pas dire que personnellement, vous n'avez pas le droit d'aider un pauvre que vous croisez. Dieu sait tout. Est-ce que vous allez tromper Dieu en disant, « Mais moi, je ne peux pas, je suis trop pauvre. » Dieu sait tout. Il sait que vous avez de quoi apporter votre dîme et vos offrandes pour ceux qui sont plus pauvres que vous. On trouve toujours plus pauvres que soi. Oh mais Michel, tu ne connais pas ma situation. Dieu connaît ta situation et te dit, mets-moi à l'épreuve et tu verras si je ne réponds pas sur toi la bénédiction en abondance. Tu veux pas? C'est le seul passage où la Bible dit, où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve de cette manière en apportant votre dîme et vos offrandes dans la maison de Dieu pour qu'il y ait des provisions afin de pouvoir aider les pauvres. C'est le seul passage dans la Bible où Dieu dit mettez-moi à l'épreuve. D'habitude, c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Là, c'est nous qui mettons Dieu à l'épreuve. Voilà, on va voir si ce que tu dis c'est vrai, on va le faire. Maintenant, on va lire tout haut ce que le peuple chrétien dit tout bas. Versets 13 à 18, c'est toujours dans Malachie.
Vos paroles sont violentes contre moi, dit l'admirable. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'on a dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert l'esprit des vivants. Qu'avons-nous gagné d'avoir observé ces ordonnances et d'avoir marché en habit de deuil devant l'admirable des armées? Nous tenons maintenant pour heureux les orgueilleux, ceux qui commettent les méchancetés. Ils prospèrent, oui, ils tentent l'esprit des vivants et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'admirable se sont parlé l'un à l'autre et l'admirable a été attentif et les a écoutés. Et un mémoire, un livre de souvenirs, fut écrit devant Dieu pour ceux qui craignent l'admirable et qui pensent à son nom. Ils seront à moi, dit l'admirable des armées, au jour que je préparerai mes plus précieux joyaux. Ils seront ma propriété et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert l'esprit des vivants et celui qui ne le sert pas. Pour le moment, on ne voit pas trop la différence. Le bon grain et l'ivraie pousse dans l'église en même temps. Ils ont tous l'air d'être des bons chrétiens. Mais quelles sont leurs intentions? Donnent-ils leur dîme? Ou la donnent-ils dans l'espoir de pouvoir voir les écluses des cieux se répandre sur eux, pour pouvoir se payer des bonnards trucs et de s'enrichir? Ça, c'est la mauvaise intention. Ou est-ce qu'ils le donnent dans le but de centraliser des provisions pour qu'il y ait dans la maison de Dieu de quoi aider les pauvres? Notre frère Philippe va retourner là-bas au Burkina d'ici quelques jours pour pouvoir continuer cette œuvre que nous avons commencée. Eh bien oui, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Voilà ce que c'est le vrai évangile de la prospérité. Je vous ai montré ce que c'est le faux évangile de la prospérité et je vous ai montré ce que c'est le vrai évangile de la prospérité. En ne vous cachant pas les textes, parce que c'est facile, ces prédicateurs de la fausse prospérité, ces faux prédicateurs de la prospérité, ils vous prêchent « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. » Alors oui, et vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction d'abondance. Mais oublie de dire que d'abord Dieu juge, et il met de côté ce qui n'est pas bon, et il explique ce qui est bien, et il dit quelles sont les mauvaises attitudes. Il dit pas que ces gens-là ne donnent pas leur dîme, il dit qu'ils la donnent mal et que ça n'est pas agréable à Dieu. La façon dont ils donnent leur dîme n'est pas agréable à Dieu. Alors il y a ceux qui ne donnent pas leur dîme et qui sont désagréables à Dieu, et il y a ceux qui donnent leur dîme de la mauvaise manière et qui sont aussi désagréables à Dieu. Et après on se dit, mais quoi est-ce qu'on a trompé Dieu? Je ne comprends pas. Ben maintenant je vous l'ai dit. Maintenant vous savez. Alors mettez Dieu à l'épreuve et vous verrez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, que Dieu vous aide. Et si vous voulez me taxer de prédicateur de l'abondance, eh ben faites-le, ne vous gênez pas, allez-y avec votre grande langue. Moi je sais que je vous ai dit la vérité. Et ceux qui connaissent la vérité et qui aiment la vérité, la reconnaissent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.